Bienvenue en Métisland avec Gurvan Krishnadjaja.
En sol majeur, Yasmin Chouaki.
En sol majeur.
Après l'avoir lu, m'est avis qu'il faudrait inventer le Métisland, un pays imaginaire pour métis, qui, dans le cas de notre invité, ne serait ni la France ni l'Indonésie, et où surtout on n'attendrait jamais le retour du père. C'est en substance et en souffrance ce qui se dégage du très beau premier roman de Gurvan Krishnadjaja, Amok mon père. Lorsqu'il laisse sa plume de journaliste à Libération, c'est pour se raconter et pour se laisser transpercer par un abandon premier et une quête identitaire qui le conduira sur les rives de la mythologie indonésienne et de la survie coûte que coûte. Un récit qui passe au tamis les non-dits des adultes et les fantasmes qui vont avec. Un récit qui fait vivre ou revivre des souvenirs hauts comme trois pommes.
Octobre 2002, à Brest. La rumeur avait fait le tour de l'école en une demi-journée. Je n'étais le fils de personne. Un de mes camarades de classe avait expliqué à tout le monde ce qui lui semblait être une curiosité. Le chinois de la classe, sa mère, elle est blonde. Et elle ne lui ressemble pas du tout. C'est sûr, il est adopté. Les autres avaient renchéri, certains garçons très imaginatifs racontaient qu'on avait retrouvé mon berceau dans une rizière. D'autres prétendaient que mes parents avaient été emprisonnés pour avoir tué et mangé leur chien. Moi, je n'avais qu'un seul objectif, faire taire tous ces menteurs.
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Yo, yeah. This is why Clef Refuge
Cat
cries well. On this roast, I got my girl L. One time. Hey yo, L, you know you got the lyrics.
Yeah. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while.
on se régale toujours et encore avec ce Fugees, n'est-il pas ? Bonjour Gurvan Kristanajaja.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous ressentez, vous, en écoutant ce « Killing Me Softly With This Song » de la sublime Lauryn Hill ?
Ouais, c'est beaucoup d'émotions. Je crois que c'est un morceau qui dit la souffrance, mais d'une manière belle, en fait. C'est un morceau avec lequel j'ai grandi dans les années 90 et qui me ramène à des souvenirs d'enfance.
Ouais. La souffrance avec élégance.
Oui.
Merci en tout cas pour cette première lecture qu'on écoutait juste avant de votre roman « Amok, mon père ». On va évidemment revenir sur ce petit garçon qui se faisait traiter d'enfant adopté. Mais d'abord, une question en sol majeur concernant votre première casquette.
Kema de hande esko ko dum mi ti no da ko pamdu no da ko
faites-vous le métier que vous rêviez de faire enfant?
Gurvan.
Oui. Depuis le plus jeune âge, je crois que j'ai eu envie de raconter la vie des gens. Ça a commencé par ma grand-mère qui a vécu la guerre et qui a été réfugiée, qui est revenue à Brest dans une ville qui était démolie. Et je crois que quand j'entendais les récits, lorsque j'étais enfant, j'avais envie de porter ça à la connaissance du monde. Et c'est ce qui a créé ma vocation, en fait.
Mmh. Vous comprenez cet amour du récit ?
C'est beaucoup d'empathie. Je pense que c'est une manière d'utiliser quelque chose que j'ai en moi, que je ne comprenais pas, c'est-à-dire la capacité de me mettre à la place des autres et de ressentir leurs émotions. Et en fait, de pouvoir les retranscrire dans des lignes et dans les pages d'un journal, c'est une chance parce que c'est donner des couleurs, les couleurs des autres dans les journaux, en fait, et donner la voix de ceux qui ne l'ont pas. Ma grand-mère n'avait pas la parole et je voulais lui donner la parole. Et aujourd'hui, je donne la parole de tout un tas de personnes pour cette raison aussi.
Alors, j'ai vu que pour le journal Libération, que ce soit dans la peau d'un forçat d'Amazon, où vous vous faites embaucher en tant que livreur, ou encore dans l'île esclave moderne dont vous m'avez parlé. Là, je crois que vous avez suivi une domestique philippine pendant un an, jusqu'à Manille. On est dans le journalisme d'immersion, quelque chose comme ça. Je remarque que donc, pour les besoins de ce genre d'enquête, vous avancez masqué, Gurvan. Qu'est-ce qui motive chez vous ce genre d'enquête ?
C'est, je pense, de mettre la lumière sur des choses qui ne sont pas ou peu connues. Que ce soit la question des livreurs Amazon ou des domestiques philippines, je trouve qu'on vit aujourd'hui dans une société où on est quand même pris par la communication, le marketing, par ce que sont les gens, ce qu'ils ont l'air d'être. Et beaucoup de choses sont cachées. Et mon métier, en tout cas, c'est de faire du lien entre des personnes qui sont dans l'ombre et d'autres qui sont dans la lumière. Et je crois que c'est ça qui motive aussi l'immersion, c'est que la meilleure manière de voir ce qui se cache, c'est d'y aller, en fait.
Mmh. Il paraît qu'il y a le journalisme du savoir et puis le journalisme du regard.
C'est beau.
C'est beau, c'est, ouais. C'est votre slogan éventuellement. La presse écrite, c'était une évidence pour vous ?
Non. J'ai hésité entre presse écrite et télé. J'aime assez l'image parce qu'elle permet de faire passer un message à un public qui est plus large. Je trouve que, par exemple, quand parfois on fait des vidéos qui sont liées à nos articles, certaines personnes nous disent « Ah, j'ai vu la vidéo, mais ils ne lisent pas l'article. Mm-hmm. » Parce que l'article fait 20 000 signes et que c'est plus difficile de s'y plonger, quoi.
Donc vous aimez la difficulté.
J'aime la complexité, je dirais.
Alors quand on vous pose la question, Gurvan, de la référence pour vous chez les journalistes de presse écrite, la réponse fuse « Sorge ». Chalandon, qui est un immense journaliste, il se déclare, lui, flâneur salarié, puisqu'il ne manque pas d'humour et de poésie. Mais c'est un journaliste maison, donc à Libération. Il a longtemps été rédacteur en chef dans ce grand journal. Prix Albert Londres en 88 pour le procès Klaus Barbie. Je rappelle, Klaus Barbie accusé de déportation, de torture et de mort de nombreux juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un procès qu'il a suivi, Sorge Chalandon, avec son propre père, dans la salle du procès. Sorge Chalandon, qui se présente lui-même comme un fils de traître, donc la question se pose évidemment, comment, à ce titre, témoigner des voix les plus douloureuses de notre époque ?
Je ne sais pas exactement ce que mon père a fait pendant la guerre. Parce que je sais ce qui m'a menti toute mon enfance. Il était grand résistant ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, comme c'était un affabulateur absolu, la guerre était et le lieu aussi de l'affabulation, de son affabulation maximale. Mais en tout cas, l'homme qui est là, ce jour-là, d'abord, il me demande d'assister aux audiences. Et je lui dis oui, je ne sais pas pourquoi je lui dis oui. J'aurais pu lui dire non, il ne serait pas venu. Hein. Mais je lui dis oui parce que c'était important pour moi. Et j'espère que le procès Barbie va faire en sorte qu'il va se dévoiler. Là, il y a son fils, il y a lui, il y a Barbie, il y a ce lieu, ce décorum. Et je pense que cet homme-là, mon père, soit il a été le grand résistant qu'il a prétendu, qu'il m'a dit être. Et à ce moment-là, bah, il va pleurer à l'évocation des enfants des yeux, ou je ne sais pas, mais en tout cas, moi je le regarde. C'est terrible dans ce procès-là, parce qu'en plus, il faut que j'ai des yeux dans le dos, parce que mon père est derrière moi. Il est au fond de la salle. Moi, je compte que deux vérités éclatent. D'abord, ce qu'a fait Klaus Barbie, qu'il soit condamné et jugé. En revanche, je ne juge pas mon père. Mais j'espère que ce lieu du jugement de Klaus Barbie va faire que soit c'était un petit collabo, et ben que c'est le moment, papa, vas-y, tu peux me dire maintenant. Et ça n'a pas été le cas. Donc je suis reparti de ce procès, simplement avec le crime contre l'humanité de Barbie, ce qui est déjà énorme. Mais mon père est reparti dans son silence, dans ses mensonges, et il n'a pas mis à profit cette épreuve du procès Klaus Barbie pour me dire la vérité.
Incroyable, Sorge Chalandon au micro de Caroline Brouet et dans votre ensemble majeur, Gurvan Krishna Jaja. Que vous inspire ces propos ?
On en a des frissons, hein. On se projette dans la scène et c'est vrai que moi ça me ramène à mon propre père qui est aussi un menteur, bon, qui n'a pas collaboré, mais c'est vrai que ce que j'ai toujours apprécié chez Sorge Chalandon, c'est qu'il a été une des premières personnes pour moi à se mettre dans la quête du père et ça m'a autorisé à le faire aussi.
Ah ben voilà. J'ai retrouvé pour vous un extrait de son livre « Profession du père ».« Mon père était chanteur, footballeur, professeur de judo, parachutiste, espion, pasteur d'une église pentecôtiste et conseiller personnel du général de Gaulle. Un jour, il m'a dit que le général l'avait trahi. Alors mon père m'a annoncé qu'il allait tuer de Gaulle et il m'a demandé de l'aider. J'étais fière, mais j'avais peur aussi. À 13 ans, c'est drôlement lourd un pistolet. » Ce récit, vous diriez effectivement qu'il vous a donné le feu vert pour ne plus être complètement journaliste et écrire à la première personne « À moque mon père ».
C'est tout à fait ça. Quand on entend d'ailleurs Sorge Chalandon, il explique pourquoi il choisit le roman et pas le témoignage journalistique. C'est qu'en tant que journaliste, on donne la parole aux autres et en tant que romancier, on parle à la première personne. Et c'est vrai qu'en entendant ça, ça m'a créé un déclic. Et puis moi, quand j'ai lu « Profession du père », j'ai été l'enfant qu'il était. J'ai cru le père jusqu'au bout. Je me suis, c'est vrai, senti autorisé, comme si il traçait un chemin et qu'il fallait l'emprunter pour aussi révéler ma propre histoire.
Mmh. Ce père spirituel, hein, on peut l'appeler comme ça, je pense pour vous, Gurvan, il nous donne aussi une grande leçon parce qu'il dit « Je ne juge pas mon père ». Est-ce que ça, c'est une voie que vous tentez aussi d'adopter ?
Je dirais qu'il y a deux manières de composer, je pense, quand on vit une histoire comme celle-ci. Il y a la colère ou la compréhension. Effectivement, moi j'ai choisi plutôt la compréhension. Je pense que Sorge Chalandon est aussi quelqu'un d'assez empathique, qui essaye de comprendre et qui fait ce métier pour ses raisons. Donc je m'y retrouve plutôt, oui.
Apparition, disparition.
Ce roman donc qui vient de paraître chez Philippe Ray, « À moque mon père », comme vous avez choisi la compréhension, ben vous avez choisi l'enquête filiale, sur ce pouvoir de disparition qu'ont bon nombre de pères. Je peux en attester ici à ce micro. Tout commence en tout cas pour vous, Gurvan Krishna Jaja, comme un mauvais conte de Noël.
Oui, mon père nous quitte, il rentre en Indonésie, on habite à Brest à cette époque-là, en 95.
Vous avez 4 ans.
J'ai 4 ans. Et il nous dit « je reviens pour Noël ». Arrive Noël et on se rend compte qu'il n'est pas là. Il a disparu, en fait. On ne le sait pas à ce moment-là, mais il ne reviendra pas. Et les mois passent et on a de moins en moins de traces. On reçoit une carte postale par an.
Que vous collectionnez dans une boîte en métal.
Que je collectionne dans une boîte, exactement. Que mon frère, lui, affiche en haut de sa chambre. Il met toutes les cartes postales et puis on voit les paysages d'Indonésie. Et on s'imagine notre père voguant dans ces univers. L'imaginaire de l'enfant prend le dessus, en fait. On se dit peut-être qu'il est agent secret, infiltré. Peut-être qu'il est éleveur de orang-outan. Il est champion de foot, acteur, enfin...
Vous lui donnez des identités puisqu'il n'en a plus.
Enfin, exactement.
Il y a un déficit d'identité.
Exactement, et puis ça devient un personnage fictionnel en fait. Parce que je pense qu'à ce moment-là, la souffrance est trop difficile. Et d'accepter qu'il a disparu, en fait, c'est vivre un abandon. Et tous ceux qui ont vécu un abandon savent ce que c'est. On compose à ce moment-là. Well, I heard there was a secret chord. The David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah.
Votre récit, Gurvan, s'ouvre sur l'image d'un cercueil, mais c'est une fausse piste. Puisqu'il s'agit de l'enterrement d'un de vos amis d'enfance sur cette musique de Jeff Buckley, Alléluia. C'est un ami qui a été tué à 20 ans dans un accident de la route, donc c'est absolument terrible, mais c'est un événement qui ne vous fait verser absolument aucune larme, en tout cas en apparence. Ça fait quelques années, vous l'expliquez, que vous avez tout verrouillé émotionnellement, les angoisses ne s'exprimant quasiment que la nuit et dans certains cauchemars. Et je dirais que de la même manière, vous ne déversez pas frontalement votre désir filial du père, vous l'articulez autour d'une construction bien précise. Quelle est-elle ?
J'avais envie de me plonger dans une enquête et de revenir par mes souvenirs, en fait, de composer par teinte.
En fait, il y a deux temporalités.
Voilà, exactement. Il y a la temporalité de l'enquête, du voyage, de la découverte du père, le moment où on se rencontre. 15 ans après son départ, et il y a le moment de l'enfance qui me permet aussi d'expliquer pourquoi dans la narration du présent, je me comporte comme ça, c'est-à-dire quand je rencontre mon père, j'ai une forme de stoïcisme. Je m'attendais à pleurer, c'est un moment qu'on attend depuis toute une vie en fait, qu'on a fantasmé, et pour moi c'est un moment d'une banalité terrible. Et j'avais besoin de me replonger dans mes souvenirs d'enfance et aussi dans ce traumatisme-là, pour comprendre pourquoi j'étais incapable d'exprimer une émotion, alors qu'au fond, c'était terrible ce que je vivais.
Alors dans ce récit enquête, on découvre que vous avez donc une famille officielle bien présente, c'est la famille bretonne qui aura tout fait hein, pour compenser la disparition du père. Et puis vous avez une famille indonésienne, lointaine, fantasmée au début, qui va petit à petit, via Facebook d'abord, mais prendre visage. Et concrètement, lors de votre premier séjour à Jakarta, où là, évidemment, Gurvan, vous êtes perdu. Vous êtes en plein syndrome, dites-vous, SNF, c'est-à-dire...
Sans nationalité fixe. Depuis que je suis tout petit, on me voit beaucoup par mes yeux bridés et mon nom de famille. Moi, j'ai une mère blonde aux yeux bleus, donc c'était très perturbant pour moi parce qu'il y avait un sentiment un peu d'illégitimité, c'est-à-dire qu'on nous demandait souvent si on était adopté. Et je m'étais dit, quand j'étais enfant, que le jour où j'irai en Indonésie, eh ben, en fait, je serai enfin de quelque part. Puisqu'on me dit « tu es d'où ?» Et quand je disais « je suis de Brest », on me disait « non, tu es vraiment d'où ?» La réponse qu'on attendait, c'est d'Indonésie. Donc je me disais « quand j'y serai, c'est bon, on va arrêter de m'embêter. » Et en fait, en y allant là-bas, je découvre qu'eux aussi, ils me prennent pour un étranger. Donc en fait, j'ai le sentiment d'être en errance à ce moment-là.
Cette question d'identité, d'ailleurs, elle travaille à travers cette phrase qui m'amuse beaucoup. « Enfant, je rêvais d'être algérien.
» Oui, j'avais beaucoup de camarades algériens au collège et au lycée. Et ils avaient tendance à avoir cette capacité à faire corps et à revendiquer, à brandir les drapeaux, à se retrouver autour du foot, etc. Et ça donnait un sentiment d'appartenance. Moi, je n'avais aucun sentiment d'appartenance. Si ce n'est peut-être quand je voyais Angoune à la télévision et qu'elle chantait La Neige au Sahara, et voilà quoi.
Voilà. Alors remettre la main sur ce père, évidemment, ça va être pour vous un travail intérieur, psychologique et très profond. C'est se saisir de plusieurs dossiers qui restent mystérieux pendant très très longtemps. Par exemple, le dossier de la rencontre de vos parents.
Elle est d'autant plus mystérieuse que ça ne s'est pas passé en France. Ça s'est déroulé en Allemagne.
Ouais. Et, pourquoi ils se rencontrent en Allemagne ?
Parce que mon père fait quelques petits délits en Indonésie et sa famille l'envoie étudier en Allemagne pour le redresser. Et ma mère, elle, est une Bretonne qui... elle craint de grandir en Bretagne toute sa vie et d'y rester, et de se marier avec un Breton et de passer sa vie à tourner en rond. Donc un jour, elle décide de partir et puis elle choisit l'Allemagne. Elle ne sait pas trop pourquoi. Et puis elle décide d'étudier là-bas. Puis un jour, on lui dit... Il y a un Asiatique qui aimerait qu'on lui coupe les cheveux. Est-ce que tu sais faire ça ? Elle lui coupe les cheveux, puis il tombe amoureux.
Alors, l'histoire d'amour, vous la reconstituez un petit peu. Il y en a une, en tout cas. Ce qui vous rassure.
Évidemment, ça me rassure, puisque je n'ai connu mes parents que séparés et mon père quasiment qu'absent. Donc, l'idée de sentir qu'on est né d'un amour, quand même, c'est une histoire, je pense, où ils ont dû, dans les années 80, braver beaucoup d'interdits. Et de sentir qu'ils se sont aimés, ça me rassure.
Vous écrivez « Se marier avec un Indonésien dans les années 80, c'était comme vivre avec un Martien ». Pourtant, il y a une figure formidable dans cette famille bretonne qui va entretenir l'image du père, outre votre mère hein, d'ailleurs. Elle va entretenir cette image de façon presque fantasque. C'est votre grand-mère, Mamie Gégé.
Oui. Ma grand-mère a eu... Je dirais peut-être un coup de foudre amical avec mon père, quand bien même ça a été...
Furtif.
Et puis ça a été difficile après à vivre pour elle parce qu'elle nous a vus souffrir. Mais pour elle, qui n'avait jamais connu autre chose quasiment que Brest, qui n'avait jamais voyagé, rencontrer un Indonésien, entendre son accent, les voyages, sentir les odeurs, voir les images qu'il véhiculait, c'était extraordinaire.
Alors, il y a une scène très touchante, il faut lire votre livre « Amok, mon père ». D'abord, il y a une première rencontre hein, qui va être décevante pour vous en France avec ce père qui s'est remarié de son côté. Et comme vous souhaitez toucher du doigt, on va dire, ce mythe qui s'est créé au fil des années, votre grand-mère vous offre les billets pour Jakarta. Et donc, c'est une immense famille que vous découvrez, pleine de tantes, d'oncles, de cousins. Alors, c'est une famille évidemment pleine de codes, de non-dits aussi. On est, je le rappelle, en terre musulmane. On est aussi dans le plus grand pays musulman du monde. 90% des 273 millions d'habitants sont musulmans. Mais vous découvrez les origines de cette famille.
Qui sont des origines chrétiennes et chinoises, en fait. Pour partie, en tout cas. Et je découvre aussi qu'il y a une relation tumultueuse avec les Chinois d'Indonésie, qu'on peut qualifier d'un génocide dans les années 60. C'est-à-dire que des centaines de milliers, voire des millions, les chiffres ne sont pas officiels, hein, de Chinois ou de personnes d'origine chinoise ou de personnes ayant l'air chinois ont été tués, voire massacrés.
Pourquoi ?
Parce que c'était à l'époque de la guerre froide. En fait, l'Indonésie devient indépendante et ils sont ni dans le camp américain ni dans le camp communiste. Et les Américains ont quand même la crainte que ça bascule puisque la proximité avec la Chine. Il y a une espèce de putsch qui a lieu avec un chef de l'armée qui prend le pouvoir, comme ça arrive souvent.
Suharto,
exactement. Qui décide d'interdire le parti communiste et que les Chinois sont responsables des maux de la société. Faut voir qu'en Indonésie, les Chinois, c'est une énorme diaspora. On pourrait voir qualifier ça un peu comme les Juifs en Europe. Mmh. C'est-à-dire que ce sont des personnes, des peuples qui n'ont pas pu toucher à des métiers nobles et donc qui ont fait de l'entreprise, qui ont touché à l'argent, ces choses-là, et qui se sont enrichis. Il y a aussi beaucoup de complots autour des Chinois en Indonésie.
Alors Dany, c'est le prénom de votre père, qui n'est pas très expansif hein, dans ses retrouvailles avec vous et votre frère, pour le moins. Il vous emmène un jour à Yogyakarta. Merci. Mais précisément devant le palais du sultan, construit au XVIIIe siècle dans le pur style javanais et où les habitations privées de ce palais vous sont, à vous et votre frère Gurvan, grandes ouvertes, avec à votre service une procession de serviteurs et puis ce mot d'ordre de votre père. Allez-y les garçons, vous êtes chez vous.
Il ne faut pas être gêné, appuya mon père devant notre embarras grandissant. tous les héritiers du sultan ont un titre royal selon l'arbre généalogique. Votre grand-père était un prince, il m'a légué son titre quand il est mort. Vous êtes tous les deux des hommes, et vous serez logiquement des princes aussi. Il faut en être fier et porter cela haut dans votre cœur. Tout ceci est à vous, insista-t-il. La visite dura ainsi pendant de longues heures. Nous avons essayé tous les matelas du palais et pris place à toutes les tables. Dans une des salles d'eau, l'intendant nous proposa même de nous faire couler un bain pour nous détendre, et nous sommes sortis vêtus d'un sarong batik, d'une coiffe, sorte de couronne réservée aux héritiers de la famille royale.
On est d'accord, Gurvan Krishnadjaja, dans votre ensemble majeur, cette scène est digne d'un film. Ce qui est intéressant et douloureux en même temps, c'est que vous allez passer en fait en quelques heures du statut d'enfant abandonné au statut de prince héritier. C'est-à-dire que c'est un ascenseur émotionnel incroyable.
Oui, socialement aussi, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on se retrouve d'un état où on est le petit cas de Brest, avec ma grand-mère qui avait connu la reconstruction, etc., à une des figures les plus emblématiques de Java. Puisque, en fait, être prince du sultanat de Yogyakarta, là-bas, c'est comme être Harry et William en Angleterre, quoi.
Donc c'est une création, une fabrication de votre père.
On le découvre après, oui. Et en fait, c'est une manière aussi de justifier son abandon. Et en fait, il ne veut pas affronter la vérité. Donc il trouve des histoires à raconter. Celle-ci en est une. Elle est énorme.
Mais alors pourquoi ? Comment justifie-t-il l'abandon avec ce nouvel héritage ?
Il nous dit, on est issu d'une famille princière, d'une famille royale, du sultanat. Et pour nous, les héritiers que vous êtes du trône doivent vivre en Indonésie. Tant que vous ne viviez pas en Indonésie, je ne pouvais pas entrer en contact avec vous. Et c'est pour ça que j'ai coupé, par respect de la tradition et de l'héritage familial. Maintenant que vous êtes là, vous voyez, les portes sont ouvertes. Vous pouvez vous asseoir ici, sauter sur les matelas. Puis la prochaine fois que vous reviendrez ici, vous dormirez dans le palais.
Tout se passe sous le sceau du secret. C'est vraiment le mot-clé, hein, hashtag secret.
Oui, complètement. C'est d'ailleurs assez perturbant parce que nous-mêmes sommes des secrets. En fait, on y sidérait aussi. Quand il y a autant de péripéties qui se passent, on a du mal à tirer les choses au clair.
Et donc, vous faites appel à un détective privé.
Pour comprendre son histoire, en effet, on finit par... On n'arrive pas à voir le vrai récit, en fait. On n'arrive pas à voir la vérité. On est entouré de secrets, puis on est déçu en permanence, etc. On se dit, on va mettre quelqu'un dont c'est le métier et on va lui mettre un détective aux fesses, un peu.
Alors, ce qui apparaît vrai dans cet arbre généalogique foisonnant, c'est la figure de votre grand-père, Papa Mo. Qui est-il ?
C'est, comme vous pouvez l'entendre dans beaucoup de familles, c'est-à-dire le grand-père charismatique, mais lui a ceci de plus qu'il est un intellectuel reconnu en Indonésie, qui a participé notamment à la Constitution, qui a été proche du leader de l'indépendance Sukarno, puis du dictateur Suharto, et qui est un prof d'économie à l'université de Jakarta. Et c'est une figure qui plane au-dessus de la famille, en fait. Il est presque déifié, en fait, mon grand-père.
Father in the history of the world, that leaders of Asian and African peoples can meet together in their own countries to discuss and deliberate upon matters of common concern. In spite of diversity that exists among its participants, let this conference be a great success.
Aucun peuple ne peut se sentir libre tant qu'une partie de sa patrie n'a pas été libérée. Comme la paix, la liberté est indivisible. Il est impossible d'être à moitié libre, de même qu'il est impossible d'être à moitié vivant. C'est ce que dira en substance le président indonésien, le père de l'indépendance, donc Sukarno, dont vous parliez, Gurvan, lors de son discours d'ouverture de la conférence de Bandung. C'était le 18 avril 1955, on en entendait un extrait. Car ce qui est intéressant, Gurvan, dans cette quête identitaire, c'est qu'elle se double un peu d'une quête historique. L'histoire du pays vous intéresse ?
Oui, puisque je me rends compte aussi que l'histoire du pays est maillée de secrets aussi.
Oui, il y a deux versions de l'histoire.
Il y a deux versions de l'histoire.
La nationale et la familiale.
Exactement, et tout est comme ça en Indonésie, en fait. Et je me rends compte que, notamment, Sukarno a une place très très importante, encore aujourd'hui en Indonésie, puisqu'il garantit un peu le récit national, mais récit national qui a été mis à mal par la dictature.
Et le récit national dit quoi ?
Il dit que l'Indonésie est un pays fort et fier qui ne s'est pas laissé prendre par les puissances étrangères, en tout cas dans les 20 premières années de son indépendance. Et c'est une image aussi assez paternelle dans un pays qui est divisé, puisqu'il y a énormément d'îles, des dizaines de milliers d'îles. Donc Sukarno incarne, un peu comme le général de Gaulle en France, le rassemblement, en
l'unité.
Fait, l'unité du peuple. D'ailleurs, la devise indonésienne, c'est l'unité dans la diversité. Et l'histoire avançant, il y a de plus en plus de secrets qui apparaissent dans l'histoire indonésienne, notamment l'ingérence de la CIA, justement dans le génocide qu'on évoquait précédemment.
De la minorité chinoise.
Exactement. La manière dont ils ont pu éventuellement propulser Suharto, le dictateur à la tête du pays. Mm-hmm. Et aujourd'hui encore, ce qui est fou, c'est que le Parti communiste est toujours interdit en Indonésie.
Ouais.
Donc les secrets perdurent.
Alors ce qui est fou aussi, c'est que peut-être le journaliste, la veine journalistique qui est en vous quand même fait que vous regardez ce pays avec des lunettes particulières, d'autant que la grande histoire croise quand même la trajectoire de ce fameux Papamo. Quel a été son rôle à lui sous la dictature de 1965 de Suharto ?
Son rôle, en tout cas ce qu'on m'en a dit, c'est qu'il était chargé de définir les critères d'immigration du pays. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est être un citoyen indonésien ? Mais comment on acquiert la nationalité ?
Et c'est pas rien.
C'est pas rien.
Plus dérangeant, il aurait cautionné les massacres des Chinois.
En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne s'y est pas opposé. Et moi, c'est ce qui me pose question dans ma propre histoire personnelle, puisque nous étions ce que nous honnissions. C'est-à-dire, nous sommes une famille d'origine chinoise, et mon grand-père, étant quand même à un poste à responsabilité, constatant le massacre des Chinois, ne s'y est pas opposé, et voire même peut-être à laisser faire. Et moi, c'est quelque chose, effectivement, qui m'interroge aujourd'hui, puisque j'ai du mal à comprendre qu'on peut être quelqu'un qu'on déteste. C'était un rituel à Jakarta. Les hommes sortent à la nuit tombée pour échanger des banalités en enchaînant les cigarettes. Peut-être fuyaient-ils aussi leurs femmes. On appelait cette habitude Radio Potin, un réseau social plus viral que Twitter. On ne citait pas les résidents par leur nom, mais par leur numéro. On entendait « La voisine du 15 trompe son mari avec un hindou. Le voisin du 18 a acheté une belle voiture, mais il a fait un crédit parce qu'il n'est pas riche. Le fils de la voisine du 16 va se marier avec Lady Gaga. » Et ce soir-là, il commentait les événements. Il paraît que c'était un homme aimé de tous. D'ailleurs, il s'appelait Monsieur Chinta. Ça veut dire « amour », s'exclama un monsieur grisonnant à qui il manquait les deux dents de devant. J'ai entendu dire qu'il avait deux beaux enfants, mais qu'il les a tués sans hésiter d'un coup de couteau, a ajouté un voisin. L'un d'eux s'est tourné vers moi et m'a fait signe de la main qui disait « Sois des nôtres, rejoins notre clan, mon ami ». Alors je me suis accroupi avec eux, en silence, et j'ai passé le reste de la soirée à les écouter palabrer. Je me sentais mieux ici, avec de parfaits inconnus, plutôt qu'à la maison, auprès de mon amok de père.
Mon amok de père, dites-vous, Gurvan Krishnadjaja. C'est une scène qui intervient dans votre récit. Récit qui paraît, je le rappelle, chez Philippe Ray. Après qu'un homme dans le quartier ait poignardé quatre membres de sa famille. Pour cette question ultime sur ce récit, que veut dire amok et pourquoi ce titre ?
Grande question. Amok veut dire... c'est un trouble ethnopsychiatrique qui a été analysé dans les pays d'Asie du Sud-Est, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines. Et dans ce trouble, certains hommes décompensent soudainement. Ce sont des hommes très bien intégrés, etc. Ils décompensent, ils prennent un couteau et ils se mettent à tuer des gens dans la rue en courant. D'ailleurs, on dit qu'ils courent l'amok, run amok. C'est une expression américaine, to run amok. En fait, ça m'a servi de clé de lecture pour comprendre mon père. Puisque en Indonésie, un amok est quelqu'un qui est habité par un esprit. Vengeur, tueur. On croit énormément aux esprits. En Europe, on est très cartésien, très scientifique sur nos manières de penser. La folie, c'est la bipolarité.
Monde invisible, en revanche, on a du mal.
Voilà, exactement. En Indonésie, on croit aux fantômes, on croit aux esprits. Et moi, quand je parlais de mon père, quand j'étais plus jeune, on me disait « mais il a quoi, pathologiquement ?» Et j'étais incapable de le dire, en fait. Et en fait, peut-être que c'est un amok marathonien, justement, c'est ce que j'explique dans le livre. C'est-à-dire que c'est un amok qui tue symboliquement des personnes, mon frère, moi, ma mère. Et c'était une manière pour moi aussi d'accepter cette folie, de me dire que je pouvais y trouver de la poésie aussi, que c'était pas destiné forcément à nous faire mal, les mensonges, c'était pas dirigé contre nous, mais c'était d'abord une folie qui était dirigée contre lui.
Oui, et qu'il va payer de sa propre vie.
Exactement. Alors, dans le récit de la moque, la personne finit toujours par retourner l'arme contre lui et effectivement, finit par se suicider.
C'est malheureusement l'issue hein, de sa trajectoire, mais du coup, cette explication que vous exhumez de cette manière-là, Gurvan, c'est un amok, c'est un esprit. C'est presque une démarche en même temps rationnelle. C'est-à-dire que vous voyez, vous prenez peut-être quelque chose de la mythologie indonésienne, mais pour en faire quelque chose qui se rapproche de notre rationalité.
Oui, c'est vrai. C'est très juste. C'est peut-être là où finalement je me rends compte que j'ai vraiment grandi en Europe. C'est que je reste attaché à essayer de comprendre et puis essayer d'analyser avec des signaux tangibles des phénomènes qui parfois nous échappent. C'était aussi une façon pour moi de réconcilier les deux images de mon père, l'image que j'ai fantasmée enfant et l'image du père qui m'a fait souffrir. De le mettre sous le sceau de la moque, c'était quelque chose qui me permettait d'accepter ce qui nous était arrivé.
عندما يسألونك من أين أنت، لماذا تجيب؟
Quand on vous demande d'où êtes-vous, que répondez-vous ?
Gurvan.
grande question.
Qu'on vous a souvent posée à part votre expression.
Ça dépend. Ça dépend de la personne qui est en face de moi et ça dépend de mon humeur aussi. Parfois, je vais dire de Brest, puisque c'est vrai, je me sens profondément breton, brestois, français. Je suis très très fier d'être français, vraiment. Je trouve que on ne le dit pas assez, mais on vit dans un pays qui est quand même formidable, qui a connu plein d'origines différentes et qui est né de ça. Être français, c'est être métisse aujourd'hui. Donc je me sens, à l'étranger, je dis que je suis français. Parfois, en France, je dis que je suis indonésien. Parce que parfois, je me sens indonésien.
D'autant que vous avez réussi, je dirais, à vous structurer autour du « nous » indonésien. Vous le dites, hein, tout à l'heure, je vous écoutais. Nous avons fait ceci, en parlant de l'histoire de l'Indonésie, ce qui est intéressant aussi, et là peut-être que les médecins, les psys, je ne sais pas, en diraient beaucoup, c'est que vous avez vécu un phénomène de dépigmentation en Indonésie.
Enfin, j'ai vécu du vitiligo, qui est une maladie de dépigmentation de la peau, qui est une maladie auto-immune. Ce qui était assez symbolique pour moi, c'est que j'étais un enfant très bronzé, très typé, et soudainement, en retrouvant mon histoire, ma peau devenait blanche. On a vu se dessiner des traces comme si vous mettez de l'encre sur un buvard. Vous voyez, ça fait une trace comme ça avec des bords assez diffus. Mm-hmm. Ça faisait ça sur mon visage. Sur le coup, je l'ai mal vécu. Et en même temps, c'était manifestement quelque chose d'assez fort.
Le visage comme page d'écriture.
Exactement. Et c'est que peut-être que toutes ces émotions, toute cette histoire que je n'avais pas su vivre pleinement, c'est-à-dire en exprimant de la tristesse, des pleurs, de la colère, finalement, c'était greffé sur mon visage et ces taches qui apparaissaient, c'était le fait pour moi que ces histoires ne parvenaient pas à se mélanger, en fait. En tout cas, à l'époque. Avec le temps, j'ai accepté et les histoires ont fini par se mélanger.
Alors, la réponse à cette question, vous venez de la donner. Au bout de cette quête, il y a visiblement une paix entre ce qui vous rattache maintenant à l'Indonésie et aussi à la France.
Barbara. Rappelle-toi, Barbara. Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisée rue de Siam. Tu souriais, et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas. Rappelle-toi. Rappelle-toi quand même ce jour-là. N'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait et il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie, et tu t'es jetée dans ses bras. Rappelle-toi cela, Barbara. Et ne m'en veux pas si je te tutoie. Je dis tu à tous ceux que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Je dis tu à tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara. N'oublie pas cette pluie sage et heureuse sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse. Cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'Ouessant. Oh, Barbara, quelle connerie la guerre.
Oui, on comprend encore le temps à RFI du côté d'En Sol majeur, de se plonger dans ce temps d'histoire évoqué par Jacques Prévert et dit par Serge Reggiani avec Barbara. C'est un temps d'histoire qui vous touche profondément, Gorvan Kristana Djadja. Vous l'avez évoqué tout à l'heure.
Oui, puisque quand on grandit à Brest, on ne peut pas être extrait de cette histoire qui est l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, puisque la ville a été entièrement rasée par les Alliés, et la ville, en fait, est une utopie, puisque tout le monde est reparti de zéro. Et celle de ma grand-mère, de mon grand-père aussi, sont partis de zéro. Donc effectivement, ce sont des faits qui me marquent énormément, et je pense que dans la transmission de l'héritage familial, on a beaucoup d'images, parfois, parce qu'on nous a raconté des choses. Moi, j'ai des images de la guerre, justement. Parfois, ma grand-mère me racontait les bottes des Allemands qui entrent dans la ville. J'ai ces images-là qui sont en moi, et pourtant je ne les ai pas vécues. Mais je me sens traversé par ça, finalement.
Donc vous avez une Bible, si j'ose dire, historique impressionnante. D'un côté, le coup d'État de Suharto en 65 en Indonésie, et de l'autre, la Seconde Guerre mondiale qui a touché Brest, la ville familiale maternelle. Est-ce que vous diriez que vous avez maintenant la sensation de pouvoir vivre en Métisland?
Oui. Je pense que, en tout cas, récemment, je me suis autorisé à être pleinement ce que je voulais être, c'est-à-dire indonésien si je voulais. Je parle de mettre des masques, mettre le masque de l'Indonésie en France et le masque de la France en Indonésie.
Le masque du secret, le du masque secret. Des superstitions, des croyances, parce qu'il y en a certaines, des croyances javanaises que vous avez emportées avec vous et qui racontent d'ailleurs la culture des non-dits de l'archipel. Vous racontez l'événement de l'éruption du volcan Merapi en 2010.
Oui.
Ça explique beaucoup des comportements des Indonésiens. Racontez-nous.
Les Indonésiens ont une vision assez spirituelle de la vie, c'est-à-dire qu'ils ont une religion qui est souvent l'islam, ils sont musulmans pour la plupart, mais ils croient aussi aux esprits, notamment effectivement aux esprits de la montagne. J'ai découvert que beaucoup d'Indonésiens se sont laissés mourir pendant l'éruption du volcan parce qu'ils ont estimé qu'ils n'avaient pas assez chéri l'esprit de la montagne, qu'ils s'étaient énervés et ils avaient décidé de rester mourir ici. Et effectivement, je trouve que parfois, en Europe, notre manque d'imagination nous blesse. Et je crois que c'est ça, être métisse, c'est aussi être capable de prendre de chacune de ses origines pour composer une histoire qui nous convient et qui nous permet de vivre et d'accepter les événements qu'on traverse.
Est-ce que vous faites la sieste au travail, comme on l'a fait parfois en Indonésie? Prendre son temps, ça se dit comment?
Plan. Ça veut dire lentement, oui, je fais la sieste. Je penche mon siège et je fais 30 minutes de sieste tous les jours. Ouais.
Une dernière question, Gurvan Kristana Djadja. Comment vous vivez votre patronyme aujourd'hui que vous êtes papa?
Bien. Je dirais que ça a été une grande question de savoir qu'est-ce qu'on transmet quand on donne un nom de famille. Voilà, et moi j'ai transmis mon nom, qui est l'héritage de mon histoire, mais qui est aussi l'héritage de ma quête. C'est un nom qui est compliqué, c'est un nom qui est...
C'est un nom chinois qui a été...
Voilà. C'est, à l'origine, c'est un nom chinois, notre nom de famille d'origine était Tan. On a rajouté Chris, enfin, ma famille a rajouté Chris pour le fait qu'ils étaient chrétiens, et Ajaya, qui était une terminaison indonésienne. Donc c'est un nom inventé.
Composé,
ouais. Mais qui raconte aussi cette histoire-là. Et c'est une chose que je transmets aujourd'hui. Et je suis fier de pouvoir l'expliquer. Et j'aurais pu faire un autre choix, j'aurais pu choisir le nom breton, c'est vrai. Mais je pense que j'aurais renié une partie de mon histoire.
Merci, Gurvan Kristan Adjadja. Ça sera pour votre progéniture, cette émission.
Ouais.
On pourra écouter plus tard. Merci de cette belle visite en sol majeur, émission à retrouver en podcast sur votre appli Pure Radio. Théo Raison, Yasmine Chouakine, où on vous retrouve samedi prochain. On vous emmènera au bras du réalisateur iranien Ali Yeganeh. Dans un instant, votre journal suivi de tous les cinémas du monde.
Nous comptons que j'ai dit nous toutes semblées.